Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Yannick Loyer. Bonjour.
Bonjour Yves.
Yannick, tu es ici pour nous parler d'une soirée qui aura lieu donc au Café Théâtre Andartadi, le mercredi 26, avec un atelier chant et puis aussi des concerts. Un concert Aznash à 21h. Donc des artistes que tu as invités qui proposeront donc des chants traditionnels tchétchènes et géorgiens. Et puis des chants sacrés de la tradition soufie matriarcale tchétchène avec Anash Lahman.
Oui, bonjour Yves. Oui, le 26 juin, le groupe Aznash Lahman, l'ensemble Aznash Lahman qui nous vient de Géorgie, de la minorité kystes du Grand Caucase, c'est-à-dire la minorité musulmane en Géorgie de la vallée de Pankisi. Donc l'ensemble Aznash Laman, qui tourne depuis 25 ans sur la scène internationale, aussi bien à Fès qu'à Konya. On était en tournée en Australie il y a 2 ans au Elbe Philharmonie l'année dernière. Donc j'ai préparé une tournée pour ce groupe dont je suis le manager depuis 5 ans à présent.
Donc, c'est un retour de voyage qui t'amène ici ?
Je suis rentré il y a une semaine de Géorgie, j'étais avec elle là-bas. On était aussi sur le tournage d'un documentaire qui va s'appeler Aznash et Yannick ou quelque chose comme ça. Un documentaire acheté par les films Eurasia à Paris pour une diffusion sur Arte l'année prochaine vraisemblablement. Et on était là aussi pour préparer cette tournée en France, une tournée de 6 semaines qui va débuter le samedi 15 juin prochain sur Paris, à la médiathèque de Créteil. Puis nous irons à Amboise, du côté de Tours, dans un hôtel particulier. Puis nous reviendrons pour un concert à Notre-Dame-des-Anges à Paris le 19, et puis la fête de la musique à Saint-Étienne pour arriver dans le Diois. Et pour cette journée atelier chant sur la matinée à l'espace Andarta, enfin à chez Café et Théâtre Andarta chez Valentina, qui a bien voulu nous prêter sa salle derrière pour 2 heures d'atelier. Et les 3 heures suivantes se dérouleront au Temple de Die, puisque je n'aurai la clé qu'à 15h. Donc ce sera au Temple de Die avant le concert du soir avec l'ensemble.
En introduction de l'émission, nous avons écouté un morceau que tu pourrais peut-être nous présenter.
Alors c'est le morceau Yam Tazé avec le garmon, donc l'accordéon du Caucase, avec son jeu très particulier. Yam Tazé est un chant traditionnel géorgien. Pourquoi un chant traditionnel géorgien pour des femmes tchétchènes ? Parce que ça fait 250 ans que cette communauté est installée en Géorgie et où elle y fait bon ménage avec les Géorgiens, plus ou moins, hein, puisque les Géorgiens sont orthodoxes chrétiens et elles sont musulmanes soufis sunnites, mais enfin la vallée. Mais tout se passe bien, donc elle parle couramment géorgien, et d'où ce premier morceau qui fera partie du programme du concert, ce premier morceau géorgien. Il y aura 2-3 morceaux géorgiens sur le concert, avec d'autres traditionnels tchétchènes, ainsi que les chants sacrés qui ont fait la réputation d'Aznash dans le monde entier.
Alors, on peut présenter peut-être plus en détail la formation Aznash Laman. Donc, elles sont 4 chanteuses principalement, mais aussi instrumentistes.
Oui, alors il y a Taïsa Arkhachianashvili qui est la grande musicienne du groupe, puisqu'elle elle compose, elle a été professeure de musique à Armeta, qui est l'équivalent de Die pour la région là-bas. Et tous les enfants de tout le pays sont passés par elle pour la musique. Et voilà, donc elle joue du garmon, donc de l'accordéon, du Caucase. Et elle joue aussi de la balalaïka et des percussions. Il y a sa fille, Malha Machalikashvili, que vous avez déjà peut-être entendu au théâtre de Die ces dernières années, ou ailleurs en France, puisqu'elle a fait partie de la tournée d'Evlira au théâtre de Die. Elle a fait aussi partie de Georgia Motherland l'année dernière, au mois de novembre. Donc une talentueuse jeune femme de 25 ans qui joue admirablement bien de la balalaïka avec une voix chaude et très expressive. Il y a Rita Paroledze avec une voix pleine d'harmonique. Rita est le personnage dynamique parmi ces 4 musiciennes. Elle fait tout, elle court dans tous les sens et surtout elle insuffle une énergie de chevauchée fantastique, enfin de une énergie presque guerrière. Nous n'oublions pas que les Tchétchènes de Pankissi, les Tchétchènes, en gros, dans leur large partie, sont considérés comme les descendantes des Amazones. Les tribus de Pompée s'étant heurtées il y a bien longtemps à la conquête du Caucase sur des bataillons de femmes endiablés dont qu'ils craignaient beaucoup, ce sont probablement les ancêtres des Tchétchènes, d'après les chercheurs du CNRS. Il y a aussi Raïssa Margoshvili, c'est la passeuse des morts dans la tradition tchétchène, c'est elle qui accompagne les morts au cimetière, c'est elle qui organise les cercles de transe soufis à la mosquée principale de la vallée, à Douissi. Nous étions encore il y a deux semaines pour une matinée de célébration de Dieu à travers la danse et la transe.
Tu t'es spécialisé depuis quelques années donc sur cette culture proche-orientale ou moyenne-orientale de la musique. La culture qui est derrière cette musique te touche aussi, et puis il y a l'histoire certainement qui pèse beaucoup sur ces chants, non ?
Oui, je me suis spécialisé dans ces minorités du Caucase, du Proche et du Moyen-Orient, car ils sont autour de la Mésopotamie, autour de nos racines, de nos croyances, de la première sédentarisation humaine qui a eu lieu en haute Mésopotamie il y a 12 000 ans. Là, nous sommes dans le Caucase, donc... on dirait à 400 km à vol d'oiseau de cette Mésopotamie, peut-être 500 km. Et on est sur un des plus vieux blés, une terre qui porte encore un des plus vieux blés cultivés au monde, le blé rose du Caucase. Et donc la nature est d'une grande richesse, que ça ressemble d'ailleurs beaucoup, la région Carhéti ressemble beaucoup au sud-est de la France, et notamment au Diwa. On a une grande richesse de terres, de cultures, de terroirs, de vins et de fruits, de légumes. Et cette richesse conduit à une grande richesse de la population, et ainsi que de la flore et de la faune qui y vivent. Donc je me suis intéressé à cette partie-là du monde qui est souvent peu mise en valeur. On parle beaucoup des guerres, on parle beaucoup des problèmes qu'il peut y avoir dans cette zone du monde, mais on parle peu de cette incroyable richesse humaine, et mon travail est là pour mettre en avant ces richesses humaines et pour que l'on puisse faire le constat que nous sommes tous des êtres humains animés par l'amour de la nature, de nos proches et de la vie.
Le paysage, le site de cette formation, où vit cette formation, c'est quel type de relief ?
Le relief, ça ressemble vraiment beaucoup à la vallée de la Drôme, à ici. La vallée de Pankissi est une vallée qui se situe entre 500 mètres et sur la partie plate, on va dire 1000 mètres d'altitude. Et on est sur le 41e, 42e parallèle, donc on est plus au sud. Mais comme le Caucase amène beaucoup de froid, le Caucase monte à plus de 5000 mètres, il y a 7 pics qui dépassent 5000 mètres d'altitude. Donc on a des températures un peu plus basses, ce qui fait que l'un dans l'autre, on se retrouve avec des noyers qui mûrissent la même semaine que les noyers du Diwa. Que Châtillon notamment, on se retrouve avec des pêchers, avec des champs de fraises, avec une grande richesse, beaucoup de vignes. Voilà, d'ailleurs, il y a des producteurs de vin d'Iwa qui sont allés acheter des vignes dans cette région-là pour le cultiver. Et puis, ouais, voilà, il y a beaucoup de points parallèles avec la première barre du Caucase, des montagnes à 2000 mètres, comme je peux les voir par la fenêtre depuis le studio là, avec Glandas.
Et donc c'est une région plutôt préservée de l'industrie, et malgré tout on peut y déceler les méfaits de la pollution.
Alors, on y voit encore très peu les méfaits de la pollution. Une amie là-bas me disait récemment que quand même, il y avait un peu moins d'abeilles qu'avant. Et même si les traitements sont très forts, ouais, je pense que l'incidence viendrait peut-être ici, peut-être un peu plus des avions, alors que là-bas, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avions qui survolent le territoire, très peu, encore que le tourisme est grandissant en Géorgie. Et vraiment explose là cette année, des touristes de partout sont là, mais pour l'instant il y a peu d'impact au niveau de la végétation et de la flore, et de la faune, pardon.
Alors pour cette soirée, il y aura des propositions de chants, il y aura des chants sacrés. On peut présenter un peu ce qui est le nasme?
Alors le nasme est l'appellation tchétchène d'un zikr. Donc ce chant d'inspiration soufie, enfin, le zikr est soufi, les Tchétchènes se sont inspirés du soufisme en créant des cercles et on répète la même phrase en se déplaçant, en tournant. Bon, pour expliquer un peu cette situation, on est dans le Nord-Caucase. Il y a plusieurs minorités, dont les Tcherkès. Les Tcherkès sont les circassiens. Le cercle circassien, tel que peuvent le connaître les danseurs, vient des Tcherkès. Et les Tcherkès sont les musulmans de l'Ouest, on va dire, qui ont comme premier voisin musulman dans ce Nord-Caucase les Ingouches et les Tchétchènes. C'est le même peuple, hein, c'est le peuple Vaïnar. Et donc l'influence probable des Tcherkès sur les Tchétchènes, il y a très très longtemps, bon, d'ailleurs on ne sait pas qui influence l'autre, a créé ces cercles de transe où on répète le nom, on tourne, jusqu'à s'enivrer en chantant, en dansant, en frappant dans les mains. Les personnes âgées, elles, se retrouvent au milieu, elles s'assoient au milieu, elles tapent le sol avec la main. C'est un appel pour les femmes qui pratiquent ça aussi à Nana. Nana, c'est la déesse du Caucase, c'est la déesse qu'on retrouve en Géorgie, qu'on retrouve chez les Tchétchènes et un peu partout chez les peuples caucasiens. Nana, c'est le matriarcat, c'est la survivance d'un matriarcat. Quand on invoque Mariam, Marie, la mère de Jésus, ou quand on invoque Dila, qui est le dieu, tout de suite on parle de Nana, la déesse. Et d'ailleurs, ce matriarcat a perduré jusqu'au milieu des années 70 dans le Nord-Caucase.
D'ailleurs, comment se traduit une société matriarcale?
Alors, une société matriarcale... Alors, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour donner un avis, une opinion générale sur le système matriarcal. Ce que je peux observer dans le Caucase, c'est que la place de la femme est très, très centrale. Que encore il y a 100 ans, il y avait des maisons avec un pilier central en bois et deux grosses branches pour symboliser l'arbre de vie, et avec de nombreux symboles sur cet arbre, et c'était l'arbre dédié au matriarcat, c'était l'arbre dédié à Nana, c'était la puissance de la maison. Quand quelqu'un se lève le matin, il se tape le pied contre le lit, il va dire « Oh Nana !» Il va implorer la déesse. Quand un enfant est malade, on a un enfant qui est malade, la mère va invoquer Nana pour guérir l'enfant.
On va peut-être écouter un nouvel extrait pour illustrer justement les chants sacrés.
Oui, alors je vous propose le premier morceau de l'album qui vient de sortir, là, qui a été réalisé par Loading Zone, Adi, l'album Azna Shlaman Zama. qui va accompagner la tournée. Donc ce premier morceau que je vous laisse découvrir, vous allez entendre cette invocation et voilà, c'est un morceau que j'ai mis en premier sur l'album parce qu'il est d'une très grande richesse musicale et créative, je trouve.
Nous écoutons.
Ya Allah, ya
Et puis la deuxième proposition, donc, ce sont plus les chants traditionnels. Alors, ça tourne autour de plein d'influences moyen-orientales.
Oui, les chants traditionnels seraient l'héritage chez les Tchétchènes d'un des bardes du Caucase qui colportaient les histoires de, bah, comme le faisaient les bardes, on fait les bardes un peu partout dans le monde et le font encore dans certaines régions. Colporter les histoires de villages et donc de nombreuses influences, oui, parce que nous sommes vraiment dans un pays de cocagne, vous l'avez compris, avec cette végétation cette faune, donc de nombreux envahisseurs, de grands voisins ont toujours souhaité s'approprier ces terres très riches, que ce soit les Russes, que ce soit les Perses ou que ce soit les Turcs ou même encore les Mongols, tous ont voulu pérenniser leur présence dans cette partie-là du Caucase. Et donc, plusieurs centaines d'années de présence, par exemple, la Perse est restée 200 ans, 250 ans dans la partie est de la Géorgie, les Turcs un peu plus sur la partie ouest, et les Russes ont desserré leur présence en 1991. Ils étaient là depuis 1801. Donc tous ont apporté un peu à cette culture. Même les Italiens ont apporté leur part dans la musique géorgienne là, cette fois-ci, où la musique italienne était très en vogue en Géorgie à l'époque soviétique au début du XXe siècle, fin du XIXe. Et donc cette musique géorgienne s'est laissée influencer. Parfois on écoute des morceaux géorgiens en se disant tiens, qu'est-ce qu'ils sont proches de chez nous, c'est l'influence italienne. Et quant aux Tchétchènes de Pankisi, bien sûr ils ont eu cette influence géorgienne, ils ont aussi cette influence slave, ce côté un peu mélancolique qu'on peut retrouver dans les chants. On y retrouve aussi cette présence de la nature à travers les bardes, avec des chants très émouvants à l'hirondelle, aux loups ou à d'autres, aux ours, aux aigles, qui sont très présents dans la culture tchétchène. Et puis, on retrouve des bourdons mouvants, comme on le retrouve dans la musique de Kakheti en Géorgie. Donc l'influence perse avec des mouvements un peu tapis volants sur les fonds, sur la voix basse.
Il y aura avec cette musique traditionnelle et ces chants traditionnels l'apport d'autres instruments. Hein, le pandouri, par exemple, c'est quel instrument ?
Alors le pandouri, c'est l'équivalent de la balalaïka, on va dire. En Géorgie, c'est un instrument à trois cordes avec un manche court qui est plutôt utilisé rythmiquement. Elle se joue de façon très, très rapide et saccadée. Les cordes sont en nylon et l'instrument est en bois, donc ça donne un côté chaud. On le voit beaucoup dans les vidéos sur la Géorgie, sur les groupes qui nous viennent de Géorgie. Il y aura aussi la balalaïka, cet instrument qui a été ramené du Kazakhstan par les Russes jusque dans le Grand Caucase. Les Tchétchènes se le sont approprié et l'ont utilisé pour remplacer un instrument propre au Nord Caucase qu'on appelle le pandouri kazbek, qui ressemble à la fois à la balalaïka et au pandouri. Il y aura aussi le wot, mais alors wot en tchétchène veut dire instrument de musique. Donc il y a le wot de papier qui est l'accordéon. Mais là, on a ce wot-là, c'est le doli, c'est cette percussion très... C'est une caisse claire qui vient par un rythme très rapide et soutenu porter ces chants traditionnels pour la plupart. Et puis bien sûr l'accordéon, voilà, l'accordéon qui vraisemblablement a été ramené par les Allemands dans leur grande conquête du Caucase. Et il y a longtemps, l'Allemagne a toujours souhaité sa présence dans le Caucase.
En parallèle de ce concert, et comme tu le disais, il y a la sortie d'un album produit et créé par toi.
Oui, complètement.
Alors, un album de Aznash Lahaman et qui s'intitule Zahama.
Zahama, ça veut dire le temps. C'est un mot qui est emprunté du turc pour dire le temps. Cet album a été enregistré en deux parties en Géorgie l'année dernière, au mois de juillet. Les filles ont enregistré sept morceaux de chants sacrés au studio Bravo, là où on a enregistré l'album Georgia Motherland l'année dernière, Parousia. Et sept morceaux ont été enregistrés chez les copains français de Tbilissi, à Vaké, qui ont un très beau lieu qui s'appelle Backstage 76. Des ingénieurs son et lumière parisiens ont migré en Géorgie il y a une dizaine d'années et ont créé ce lieu dans le parc, dans le grand parc au centre de la ville de Tbilissi, près des ambassades. Et on a pu collecter des enregistrements de qualité.
Un hélicoptère qui passe, ça va nous changer un peu. Cet album est illustré par une de tes peintures. Tu es peintre en parallèle de musicien-chanteur.
Oui, j'ai fait une formation aux Beaux-Arts en 89 en France, à Nancy, aux Beaux-Arts nationaux. Mon père disait que mais pourquoi les Beaux-Arts, ça mène nulle part. Et en fait, ça mène à tout. Et j'ai profité de cette... J'avais cette toile qui me tenait à cœur depuis longtemps. Avec, pour moi, c'était une danseuse avec des percussions autour. C'est d'après une toile de Courbet, hein, les trieuses de Millet, de Courbet. Elle était tout à fait appropriée pour cette... la pochette de cet album que j'ai créé entière. La pochette, le design a été... C'est de moi, quoi.
C'est une peinture qui date de plus d'un siècle. C'est une ambiance qu'on peut retrouver de nos jours encore en Tchétchénie.
Oui, on retrouve encore le travail de tri, le travail qui n'est pas forcément mécanique dans les campagnes, et encore les vaches, les moutons, les dindons, poules et canards qui traversent les rues dans les villages, hein, pas dans les grandes, dans les endroits moins passants. On retrouve encore cette vie rurale très forte. On retrouve encore ces personnes qui trient, ces femmes notamment, ces vieilles dames qui trient les grains. C'est encore très présent, hein, la ruralité est encore très présente.
Quelle est la place de l'homme dans cette contrée?
Alors, très bonne question. Nous demandions à Nato, à la directrice de l'école du lycée, école-lycée de la vallée de Pankisi, quelle était la place des hommes. Puis, on disait, mais bon, si ça, on comprend bien, les femmes s'occupent des animaux, des enfants, de la maison, de l'éducation des enfants et des récoltes, du jardin. Mais quelle est la place des hommes? Et elle nous avait répondu, les hommes fument. Les hommes fument parce qu'ils pensent. Alors on leur laisse cette place, ils pensent, ils fument, et nous on s'occupe du reste.
Et donc, à retenir, le mercredi 26 juin, à partir de 10h30, de 10h30 à 13h, au Café Théâtre Andarta, des ateliers de chant. Et puis, il y en aura aussi entre 15 et 17h30 au Temple de Di. C'est un atelier qui est ouvert à tout public ou alors à des chanteurs un peu expérimentés déjà?
Je dirais aux deux. Ou deux, parce que j'ai eu la demande de chefs de chœur et de personnes expérimentées qui connaissent la rareté et la préciosité de ces chants. C'est unique, ces tournées d'Aznach en France. Et par les temps qui courent, on ne sait pas quand ça se reproduira. Donc, plusieurs professionnels m'ont demandé, et d'ailleurs je reçois des demandes de CD des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse, depuis quelques jours, depuis que le CD est sorti. Donc les gens professionnels connaissent l'importance de ces chants. Donc certains seront sans doute là, m'ont indiqué leur présence. Et bien sûr, ce sont des chants, ces chants notamment religieux sont faits pour être appris rapidement, pour atteindre l'état de transe rapidement. Donc ce sont des chants qui sont abordables par tous. Il y aura des soutiens. Moi j'écris, je mène un peu un travail. travail d'ethnomusicologue depuis toutes ces années. Donc, nombreux sont les chants que j'ai pu écrire en translittération phonétique, en phonétique pour qu'on puisse les lire et les apprendre plus rapidement. Donc, il y aura des distributions de ces textes. Et puis pour, si vous venez pour apprendre ces chants, prenez un petit enregistreur. Et voilà, de toute façon, vous pourrez aussi retrouver ces chants sur le CD d'Aznash Laman.
Justement, ce CD sera disponible pendant ce concert ?
Oui, j'ai édité 300, on a édité 300 CD d'Aznash Laman. Pas plus, parce que Aznash vient d'être reconnue, enfin la réalisatrice de cinéma qui nous accompagne depuis toutes ces années, qui est géorgienne, vient d'obtenir des bourses, a été plébiscitée lors des assises du film documentaire à Yerevan pour tout le Caucase l'année dernière, et donc les films Eurasia à Paris et le CNC ont décidé d'investir dans ce documentaire qui va s'appeler, enfin le titre n'est pas encore vraiment défini, mais Aznash Laman et Yannick ou quelque chose comme ça, et qui sera diffusé sans doute sur Arte l'année prochaine. Donc le producteur à Paris m'a signifié qu'à la sortie du documentaire, un DVD serait réalisé, ainsi un coffret DVD-CD. Donc que ce CD serait dans le coffret. Donc voilà, 300 exemplaires pour l'instant, ça suffit.
Voilà. Et ils sont disponibles sur Internet, par commande, par exemple ?
Oui, vous pouvez nous contacter sur aznash.com, c'est le site officiel d'Aznash Laman. Donc aznash, aznash.com. Et vous trouverez les coordonnées, voilà, il y en aura sans doute à la librairie Mosaïque, ainsi que l'autre librairie à Cré, dont je ne me souviens plus le nom. Et ces deux librairies qui me prennent régulièrement les CD produits par notre association ou par moi-même.
Pour les inscriptions et les renseignements, il faudra écrire donc à aznashensemble@gmail.com.
Voilà.
Et puis, pour terminer l'émission, l'heure passant, on propose une dernière écoute.
Avec joie. Alors, cette fois-ci, nous allons écouter un chant traditionnel tchétchène. On pourrait, par exemple, écouter Nanaho. On a parlé de la déesse Nana tout à l'heure. Nanaho, qui est interprété par Malcha, qui est très bien interprété par Malcha sur ce CD, va nous emmener sur cette histoire d'amour avec l'incantation à Nana.
Eh bien Yannick, merci d'être venu sur RDWA nous parler donc de ce concert et de la sortie de cet album. Et je te souhaite une bonne soirée.
Merci Yves, à bientôt, au revoir.
Au revoir.